Dans le cadre de l'école de prière avec Saint-Augustin proposée à Pau par la formation permanente du Béarn, nous vous proposons cette conférence du frère Pierre Moulia, frère prémontré, enregistrée le 21 avril 2026. Témoignage sur sa vie consacrée et sur la congrégation des prémontrés.
Pour ce qui est de ce qu'on m'a demandé, il y a heureusement deux rencontres, mais je pense que elles vont être presque trop courtes parce que c'est très compliqué ce que j'ai à vous dire. En même temps, très simple, mais très compliqué. Pas par ce que j'ai choisi, mais par ce qu'a été mon parcours et par ce qu'a été aussi le parcours de Norbert. Nous sommes deux parcours compliqués, mais vous allez très très bien suivre parce que dès que vous ne comprenez pas, vous me dites. Et je répéterai aussi tout d'abord. Je ne peux pas venir dans cette formation permanente sans faire référence à l'abbé Jean Cazenave, qui a été pendant des décennies responsable de la formation permanente. Je suis de son village. Pour ça que quand l'abbé Pierre Aramburu a parlé d'Arrosjuson, on se connaissait parce que nous étions déjà du village de Jasse, près de Navarinx. Alors moi, je suis donc originaire de Navarinx, et Marilyn me disait que vous alliez me poser des questions, mais avant que vous me posiez une question, je vais y répondre. Pourquoi est-ce que je suis passé du clergé diocésain au clergé de Bayonne, au clergé régulier de l'ordre prémontré? Alors moi, donc, j'étais prêtre en 1966. Alors quand Pierre dit que j'étais curé depuis 50, 40 ans, je peux comme il disait, en fait c'est presque 60. On a fait un enterrement ce matin avec Jean-Michel, parce qu'avec Michel, je remplaçais mon remplaçant, qui est en une réunion d'abbaye à Mondé. Alors je suis à la retraite depuis l'âge de 75 ans, j'en ai 84 donc, mais depuis 9 ans, je suis dans une retraite fictive. Alors, le passage du clergé séculier que j'ai régulier, il faut que je vous dise d'abord quelque chose d'essentiel. Dans la vie religieuse, même si ça vous a été dit, mais c'est très important que je le redise. Hier encore, j'ai eu à rectifier une phrase de quelqu'un qui me dit « Finalement, tu as réussi dans ton projet d'acheter l'ancienne maison de CAT de Sarans, la maison des sœurs, le monastère. » Et j'ai répondu à cette personne « Je n'ai rien réussi du tout parce que je n'ai rien cherché du tout. Je n'ai fait que dire oui. » Et c'est très important au niveau vocationnel. Mon séminaire a eu une caractéristique aussi très atypique, c'est que il a connu trois périodes. La période avant concile, la période pendant concile et la période après concile. Et moi j'étais très émerveillé par ce séminaire avec l'appel que j'avais reçu. J'étais au collège de Mauléon. Alors donc, à Mauléon, au collège, j'avais été émerveillé par la prière qu'on y vivait. Jésus fait qu'en me voyant, les autres aient envie de t'aimer. Et c'est ça qui m'a amené à suivre quelques-uns des autres, bien que ce ne soit pas un petit séminaire. À cette époque-là, tous les prêtres, tous les professeurs d'un collège catholique étaient prêtres. On leur servait la messe avant les cours. On avait la prière. Et quand je suis rentré au séminaire, là j'ai eu un père jésuite très connu, peut-être même que mon frère ici a entendu parler, le père Jean Fournier, qui était un très très grand prédicateur des jésuites très connu, qui nous a fait notre première retraite fermée en 1960, au séminaire de Dax. À l'époque, nous étions dans les deux lieux, Dax et Bayonne. Mon année, pour vous faire quand même toucher du doigt la différence des années qui ont suivi, nous étions 20 séminaristes à rentrer en première année. 20. Déjà à l'époque en France, beaucoup de séminaires n'avaient pas autant de monde pour toutes les années. 20. Et en tout, il y avait 133 séminaristes pour Bayonne, et les Landais en avaient une cinquantaine, et ceux de Tarbes nous ont rejoints aussi après. C'était la Gascogne. Alors là, moi, j'ai été émerveillé d'abord par la prière. On avait là, tous les jours, en plus de tous les offices qui étaient suivis, avec beaucoup de ferveur, on avait la possibilité de la visite au Saint-Sacrement. Moi, ça m'a émerveillé à vie. Et ensuite, il y avait aussi, surtout pendant le Concile, l'aspect mission, très important, et après le Concile, l'aspect vie en équipe. Pour qu'on puisse envisager une possibilité de vie en équipe en paroisse, déjà au séminaire, l'abbé Aristia, qui était le supérieur de l'époque, ancien aumônier de la CO, il nous proposait de faire la théologie en équipe, partage d'évangile en équipe, et ça nous a donné une très grande force. Et à l'époque, il y avait dans le diocèse la présence de la mission de France, en particulier à Conches, Garlin, Lembeye. Et de là, il y avait comme une présentation d'idéal de vie de prêtre. Et moi, j'étais très marqué par ça. Et c'est là que, le 23 décembre 1966, à Montléon, j'ai été ordonné prêtre. Et le soir, à la sacristie, l'évêque de Bayonne, nous étions cinq, donc, me dit, voilà, moi, pour le Bernet, il est déjà nommé, je vous nomme en vallée d'Aspe. Cette petite vallée, alors là, vous êtes quelques-uns à la connaître, oui, la vallée d'Aspe, ça vous dit. De son port, et au-dessous. La vallée d'Aspe était très marquée par un aspect social de la transhumance des bergers et une vie, on va dire, une pratique chrétienne pas très grande. Et il y avait à l'époque, c'est curieux comme ces réalités ont très vite disparu à cause du contexte, il y avait dans tous les diocèses de France, à partir de la Révolution française, de la Restauration, de la royauté française, il y avait des équipes de missionnaires diocésains pour rétablir un peu le climat chrétien. Et là, ces équipes, ils venaient à peu près à chaque génération, tous les 30 ans. Et en 1964, ils avaient conscience d'être, enfin de réaliser la dernière mission diocésaine là, dans cette vallée, et tous ceux qui étaient ailleurs avaient la même impression. Là, il y a eu deux réalisations assez importantes qui sont passées un peu sous silence. Il y a eu le tracteur et la télévision. Et ça a marqué notre monde rural à un point inimaginable, qui a été jusqu'à faire passer jusque-là, le rural et agricole étaient synonymes, puisque la JAC, Jeunesse Agricole Catholique, elle a été remplacée, avec l'abbé Bains chez nous, par le MRJC, Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne. Il n'y avait plus que des... Il y avait aussi des non-agriculteurs. Et aujourd'hui, dans ces villages-là, où il y avait 50 agriculteurs, il y en a quelquefois un ou deux ou trois. Et alors moi, j'ai bénéficié j'ai reçu la conséquence de cette mission où le rapport de mission avec l'abbé Ugarte Mendia, l'abbé Cabane, l'abbé Campagne, qui est toujours là chez les petites sœurs de Bière ici, et quelques autres, ils ont fait un rapport très consciencieux à l'évêque en disant « Il ne faut pas nommer là un prêtre comme ça. Il faut qu'il soit en équipe ou au moins qu'ils puissent former équipe après. Et c'est comme ça que ils ont pensé à moi. En plus, la vallée d'Aspe était un des lieux, comme la vallée d'Ossau et de Barétous, où le Béarnais était resté beaucoup plus vivant. Les jeunes que je mariais à ce moment-là, ils se fréquentaient en parlant béarnais. Donc moi aussi, je préparais le mariage en béarnais. Étant un des derniers béarnophones, c'est comme ça qu'ils m'y ont nommé, avec ce look de la mission. Et vous vous rappelez mes points essentiels, la prière, la mission et l'équipe. Et ça m'a beaucoup marqué. J'avais comme très grande aide la visite très régulière à l'abbaye de Belloc. À l'époque, il y avait même un prieuré ici à côté de Pau, à Marciron. Et alors donc, là, ils m'ont beaucoup aidé et j'essayais de mon mieux. Mais c'était aussi le début où pas mal de prêtres quittaient le sacerdoce aussi. Parce qu'entre-temps, il y a eu le mois de mai 68, qui a marqué aussi avec le tracteur et la télévision. Et alors, là, il y a eu un événement, un berger de Tardès, au pied de la Madeleine, pour ceux qui connaissent, Jean Pitreau, que je rencontrais dans les réunions où il était question de l'avenir de la vallée, où, manifestement, si les bergers gardaient la transhumance comme ils l'avaient, ils ne pouvaient pas continuer. C'était un élevage de subsistance et non pas de rendement. Ou alors, il fallait trouver autre chose. Et moi, j'étais invité par les paysans eux-mêmes à ces réunions. Et c'est comme ça que, me connaissant, il vient me trouver en me disant que Pompidou venait de faire un statut pour les objecteurs de conscience, dont je ne connaissais pas le terme. Moi, j'avais fait la marine. Mon père à la guerre de 14, mon grand-père à la guerre de 70. Je ne connaissais pas. Objection de conscience. En plus, il y avait parmi eux des membres du renouveau charismatique. Je ne connaissais pas non plus. Ça n'existait pas encore. Et le troisième que j'ai connu après, c'est Prémontré, que je mets quand même déjà là, que je connaissais à peine un peu de nom. Et alors, il me dit que pour que les gens ne soient pas effrayés par ce terme objecteur, il faisait un service civil chez des petits paysans. Alors, il y avait deux conditions. Il fallait qu'il soit double du temps service militaire et aussi, bien sûr, dans une association à but non lucratif. Et il se dit, et il me dit à moi, s'ils sont au presbytère, les gens seront beaucoup plus rassurés du même coup. Alors, moi, j'ai dit avec grande joie, et finalement, j'ai pratiqué déjà l'accueil d'autres personnes, mais là, je les ai accueillis en priorité, avec l'accord du maire. Le vicaire général de l'époque, l'abbé Mont-Saint-Pès, qui succédait à l'abbé Saravert, tout jeune évêque de Dax, vient exprès à Cousse pour que les autres curés, il y avait des curés partout, Urdos, Lesquin, les Alsaces, c'est partout, qu'ils puissent accepter ça. Et ça a été pour moi une immense joie, mais aussi un immense renouveau. Désormais, je n'étais plus seul, j'étais avec des gens. Moi, j'avais 30 ans, eux étaient des sursitaires, des futurs docteurs, des futurs profs, qui avaient 25, 26, 27 ans. Donc, on n'était pas, c'était pas de génération. Et là, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup émerveillé de pouvoir prier avec eux. Alors, ce n'était pas facile, parce que après chaque sermon, chaque liturgie, il fallait que je rende compte de mon sermon. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça? C'était une formation sur le tas. Sur le tas. Et, mais ça m'a beaucoup émerveillé. Et tellement que, avec ce groupe qui était de renouveau charismatique, quand ils ont terminé leurs 2 ans d'objecteur, ils sont restés 2 ans de plus en communauté charismatique. Et là, on s'engageait un peu comme les béatitudes, ce genre-là. Mais la communauté à laquelle ils étaient rattachés, comme plusieurs autres, n'a pas bien marché et s'est sabordée. Elle n'a plus existé. Alors, on est resté Moi, je suis resté dans Missure, là, prêtre là. Un ancien de ce groupe s'est déclaré comme religieux possible, resté là aussi. Il y avait Belloc comme aide. Et là, nous avons eu une petite communauté, on était trois, à vivre cet idéal, donc, de... moi, j'appelais ça moine curé, pour faire facile. Puisqu'il y avait la vie de moine et curé avec le... un très, très grand respect et une recherche, très grand respect de l'incroyance que les gens me disaient. Comme je parlais bernais avec eux, ils parlaient bernais aussi avec moi, donc ils exprimaient leur non-foi. Alors, ça, je voulais quand même vous le dire, parce que ça a été pour moi aussi une formation. Mon premier enterrement... Aujourd'hui, on a fait un enterrement avec Michel, très, très religieux. Mais mon premier enterrement dans un village, en 1967, j'avais 25 ans. Après l'enterrement, une personne me dit, là j'étais encore tout seul, il n'y avait pas d'objecteur, il faut que vous sachiez une chose. Vous êtes nouveau prêtre ici, devant tout le monde, hein, il sortit du cimetière. De mourir, traduisait le bernais en français. De mourir, nous sommes tous sûrs. De tout le reste, il n'y a que vous qui le dites. Oh, je me suis dit, pauvre Pierre, où c'est que tu es mis? Et alors, je me suis dit, il va falloir que tu révises un peu tes homélies, tes devoirs d'homélie. Rien à voir. Et alors, en plus, j'ai une nièce qui m'aidait aussi. Ça m'a donné des liturgies qui étaient très missionnaires. Le rite était le même, mais un peu expliqué quand même. Parce que, alors là, pour continuer dans ce registre, mais ça fait partie de la formation aussi. Ce que je vous dis là, dans un autre village, la première messe que je fais, je dis « Le Seigneur soit avec vous ». Personne ne me répond. Alors je dis « Et d'abiutabé, et avec moi aussi ». Puisque j'avais répondu comme ça, je me suis dit, à l'évangile, ils vont tous me répondre, et avec votre esprit, rebelote. Pour vous dire un peu l'importance de la formation. Du coup, on a été amené à faire, on avait la formule de carême à domicile, que les prêtres de mon âge avaient tous usité, sauf que nous, on avait décidé avec... On avait quand même, ce que je ne vous ai pas dit, j'ai beaucoup réuni les quelques rares pratiquants qu'il y avait. On a fait un peu un groupe de prière qui est devenu le premier conseil pastoral du diocèse. Et alors, on s'était dit, le carême à domicile, personne, les gens vivaient en trois générations ensemble et on voyait personne capable d'ouvrir un livre dans la table de la cuisine. Carême à domicile. Alors, on le faisait au presbytère. Et ça a été le point de départ d'une formation spirituelle très importante. Et donc, je reviens avec mes jeunes qui vivaient avec moi, les laïcs qui venaient. Et c'est là que un dominicain de Bordeaux, je passe d'autres expériences proposées par d'autres maisons religieuses, mais... on y serait jusqu'à l'année prochaine. Je pourrais revenir, mais pour autre chose. Et alors là, donc, le dominicain de Bordeaux qui vient, le père Florenceau, le prédicateur du rosaire, oui. Un homme simple, mais rempli de foi, et rempli de foi, il n'y a pas de mais, simple et rempli de foi, et qui me dit, ce que tu vis là avec ces jeunes ressemble beaucoup à l'ordre prémontré. Eux, ils sont faits pour vivre une vie de moine curé. Et alors, j'avais découvert cette merveilleuse définition. Laus Dei et cura animarum, louange de Dieu et soin des âmes. Et ça complétait pas. C'était autre chose que ora et labora, de nos frères bénédictins, prie et travaille. Mais c'est joli aussi, louange de Dieu et soin des âmes. Et ça correspondait tout à fait à ce que je cherchais. Et alors, en 1980, je vais à l'abbaye de Mondé, et donc pour parce que oui, parce qu'il m'avait dit, ce dominicain, le père abbé de Mondé suit déjà une fondation dans l'Oise de un curé avec son diacre qui, eux, connaissaient ça par l'histoire. En étudiant, ils avaient découvert ça. Moi, je l'ai découvert par ce dominicain qui me dit d'aller voir ce père, Yves, et il me dit, on a déjà reçu beaucoup de demandes d'oblats, avec la Manche, avec le Pas-de-Calais, et on a toujours dit non, on ne va pas s'amuser à dire non encore une fois. On prend très au sérieux ta demande. Alors, il me fait, je trouve ça magnifique, il vient nous voir et il m'envoie un petit courrier en me disant, voilà, il y a deux très grandes difficultés pour t'accueillir, 850 kilomètres, et quelle différence d'accent. Mais pas seulement au niveau phonétique. C'était pas le même esprit de la mission non plus. Nous, on était en pleine mission, autre. Et alors, mais eux, ils avaient la leur, mais là, donc, et en plus, tu es le seul prêtre. Les deux jeunes avec toi ne sont pas prêtres. Mais on a vu trois éléments très positifs que j'ai pu constater. Le lien que tu avais avec les laïcs très présents chez toi et très impliqués dans cette communauté. Deuxièmement, Belloc, très très partant comme communauté parrainante, le Belloc de ce moment-là.
Oui.
Et troisièmement, l'évêque, Mgr Vincent, lui avait dit, je crois que c'est vraiment la vocation de Pierre Moulia. Ça avait beaucoup, beaucoup frappé. Du coup, on commence. Et donc, on part à l'abbaye de Mondé pour les cendres de 1980. Et je prends l'habit le 10 janvier 1981. Et là, donc, vraiment un très, très grand bonheur pour moi. Je l'avais déjà, mais encore plus grand. Et je me suis senti accueilli par des frères et cette structure me donnait quand même une plus de force pour cet état de moine curé. Et les gens me voyaient moins libre qu'avant. Avant, je pouvais aller manger chez eux n'importe quand. À partir du moment où j'étais en communauté, je ne pouvais pas. On se donnait une fois par semaine. Et donc, là, c'est merveilleux. Ici, étant en Pau, je suis obligé, je l'aurais fait quand même, mentionner quand même un autre événement là, en 80, je ne sais plus si c'était un ou deux, le curé de Notre-Dame de Pau vient faire un camp de jeunes à Acousse, l'abbé Gaille, Marcel Gaille, que Notre-Dame de Pau, et au moment de partir, il ne serait pas venu me voir parce qu'on était au séminaire ensemble, mais entre le curé de ville et le curé de champ, autrefois, il y avait plus de différences qu'aujourd'hui. Et là, j'étais obligé d'aller dans son camp parce que sa gouvernante m'a envoyé une commission. Et du coup, il me dit, mais comment tu t'en sors dans ce bled ? Eh bien, pas si mal, pas si mal. Et il me dit, il avait des projets, lui avait des projets, si tu fais affaire, tu me dis. Et c'est comme ça que lui, l'année après, et avec son ancien vicaire, Pierre-Henri Castre, l'année après, ils sont venus donc. Alors, mais l'évêque de Bayonne a dit, il vaut mieux garder la communauté en deux lieux, une communauté en ville et une autre en rural, telle que c'est aujourd'hui. Et du coup, on a été trois à Acousse et trois à Pau. Ça a marché jusqu'au moment où le frère Pascal Gaille est devenu père abbé chez nous, supérieur. Et ensuite, donc, Pierre-Marie a continué donc avec les autres, et ils sont partis en 98 à la Tarbes, la Loubert. Ils viennent de fermer le prieuré il y a quelques mois. Et ils étaient chez nous à Acousse, ils viennent de temps en temps, on reste très en lien. Nous appelons toujours les prémontrés du Béarn, même si maintenant les prémontrés du Béarn sont beaucoup plus nombreux que les Béarnais. Donc, ça, c'était à Acousse. C'est l'histoire. J'étais à Acousse, dans les années qu'il a nommées, voilà. De 1979 1967 à 2011. Là, ça fait 34 ans. Alors, mais je vais rester juste quelques temps à Accouze, après on va partir à Sarance, juste après. Mais je reste à Accouze encore, dans mon histoire. Nous restons encore un peu à Accouze pour continuer. Alors là, ça a été quand même une très grande nouvelle pour l'ordre et pour le monde religieux aussi, à tel point que un spécialiste du droit canon des moines, Willibrord, un flamand, comme le prénom le dit, Willibrord, à l'abbaye La Pierre qui vire, quand j'ai été le voir, envoyé par mon abbé pour les statuts, pour toute présence ici en Béarn, est-ce qu'il n'a pas sorti de dessous les tiroirs du bureau, de son bureau, il y avait, personne ne s'en rappelait plus à mon nez, mais lui l'avait marqué, dans un chapitre général d'un peu avant, la question était posée, si, ça c'est pour ça, c'est importantissime que je vous dise ça, si selon la tradition des prêtres diocésains continuaient à nous demander de faire partir de l'ordre, faire partie de l'ordre, tout en restant dans le lieu où ils sont, quelle procédure suivre? Il y en avait deux de marquées. On a pris la moins bonne, parce qu'on ne savait pas. Eux, ils proposaient, mais c'était de l'idéal, qu'une communauté se forme d'abord et qu'une fois formée, elle demande à être reconnue. Tandis que nous, on a pris l'autre, on était comme on était, et un prémontré qui vient nous former sur place. À mon avis, c'était la seule possible. Et alors, mais pour dire que ça a quand même travaillé un peu tout le monde. Qu'est-ce que j'ai reçu comme père abbé disant « Chapeau pour ton père abbé qui accepte que tu deviennes prémontré en te laissant là, sur place. » Alors là, donc mon grand bonheur quand même de pouvoir vivre cette vie prémontrée. On accueillit beaucoup de gens aussi pour approfondir leur vie chrétienne. Des séminaristes qui avaient quitté le séminaire, et donc quelques-uns sont repartis au séminaire. Et des gens en déprime aussi, des gens qui ne savaient pas trop où aller, ils arrivaient là. Alors, donc, ça c'est une partie qui m'a beaucoup marqué. Et on arrive alors, donc les frères qui partent à Tarbes, nous restons à Accouze. Le père abbé donc disant que frère Pierre reste à Accouze, rattaché au prieuré de Tarbes, mais à Accouze, pour honorer l'historique de l'origine. Voilà. Et alors, donc, on continue comme ça. Et en 2011, l'évêque actuel, Monsieur Hayé, me dit, on se rapproche quand même, hein, en 2011, l'évêque me dit, puisque vous êtes prémontré, il va falloir que vous quittiez Accouze pour aller à Sarance, puisque les pères de Bétaram vendent, et que le monastère était prémontré. Prémontré depuis 1314 jusqu'à la Révolution française. Et c'est comme ça que les pères des vétérans l'avaient reçu par l'évêque quand ça a été possible. Et finalement, c'est la séparation de l'Église et de l'État qui ont permis aux prémontrés de pouvoir être curés. Parce qu'avant, il fallait être du clergé séculier. Le concordat ne voulait pas mélanger les rapports de force. Bon, alors, avec l'accord très enthousiaste de mon père abbé de l'époque, qui c'était pas ce qui m'avait accueilli, c'était deux après. Là, très très bien, et c'est là que on a été amené à acheter le monastère, parce que les circonstances avaient un peu changé, et que j'ai eu aussi à alors j'ai créé une communauté, une association de laïcs. Les amis des prémontrés, après c'est devenu Saint-Norbert-Anas, après c'est devenu après maintenant, les amis des monastères du Sarance. Et alors là, on a été ébahis de voir comment les gens ont été très très généreux. On n'a pas eu à faire beaucoup d'appels d'offres, ça a été assez spontanément. Je n'ai signé aucun papier, les gens prêtés ou donnés, comme ça. En 2 ans, ça a été payé. Le 1er juin, nous avons signé l'acte à Coirance, et celui qui représentait la communauté de Bétaram, c'est un laïc, l'association La Pyrénéenne, à mon trésorier, à moi, il nous attendait pour signer, et il nous dit, vous allez rentrer pour signer, mais avant, tant qu'on est dehors, je vais vous poser une question. C'était un inspecteur des impôts à la retraite. Alors, il nous dit, je voudrais savoir comment le frère Pierre, dont je suis persuadé qu'il n'avait pas un sou en poche, comment il a fait pour acheter tout ça. Alors, d'abord, il n'y avait que ça. Après, il y a eu la maison de l'ancien CAT, maison des sœurs. Alors, mon trésorier laïque, qui était un ancien rejeteur, lui, il dit, ils sont à l'origine, eux, d'un travail très grand de néo-ruraux en ayant remis le fromage de chèvre. Ce qui fait que la Valaisanne a accueilli beaucoup de gens venus d'ailleurs aussi en plus d'eux. Alors, il répond, hein, il ne me laisse pas répondre, c'est, donc, comment a-t-il fait pour ramasser ses sous? C'est là, par la confiance avec laquelle travaille la Providence. Alors, il répond, c'est un créneau que j'ai découvert depuis que je connais le frère Pierre. Bon, alors là, un autre très grand événement, un livre s'écrit sur Sarance, mais celui-là je ne l'amènerai pas, j'amènerai le livre du frère Dominique Marie Dosé sur les Prémontrés. Celui-là, Sarance, il a fait son travail. Et le père abbé voit que Sarance était connue. Et entre-temps, l'abbé donc, qui m'avait accepté d'être m'avait dit, tu sais, on ne s'impliquera pas, nous, on est trop loin de la vallée d'Aspe, ce n'est pas la même ruralité, c'est trop compliqué, m'avait dit. Et ce fait avec des oblats. Mais entre-temps, d'abord, la vallée d'Aspe a beaucoup changé. Sur 2500 habitants aujourd'hui, je ne sais pas si nous arrivons à 500 des gens originaires de là. Quand j'ai reçu ceux qui sont là aujourd'hui, j'ai fait exprès, j'ai réuni des membres du conseil pastoral et du conseil municipal. Alors eux, ils étaient très effrayés de venir de Normandie. Ma première voisine dit, moi je suis né à Maubeuge. Le second, moi je suis né à Toulon. Troisième s'appelait Van quelque chose. Bon, finalement, le père abbé me dit, je vais t'envoyer 5 frères. Aujourd'hui, nous sommes 6. 6 à Sarance. Alors, je suis très, très heureux. L'un qui me remplace pour toute la pastorale de la vallée, que je remplace aujourd'hui parce qu'il est à l'abbaye de Mondé. Et sinon, un qui vient de me remplacer depuis à peine 2 ou 3 dimanches pour Père Bedous. Et pour moi, c'est un très grand bonheur. Et alors, je continue à recevoir beaucoup de gens avec leurs difficultés. La prochaine fois, puis que je suis quand même arrivé presque au bout de ce que je voulais dire maintenant, malgré les départs longs, je vous parlerai de la prière. La prière, plus autre chose aussi que vous direz, mais la prière, beaucoup viennent pour apprendre à prier. Ils viennent aussi avec leur dépression, leur burn-out, ou d'autres choses du même genre. Je les accueille beaucoup. Et les autres, le prieur, c'est le frère Paul Emmanuel. Alors lui, il est originaire d'ici, puisque sa famille vient de Monin. Son père était notaire à Monin. Et vous avez pu connaître ici le nom. Il avait un oncle dans le... Il avait une structure connue. Les Vergès Pascal. Donc, lui est du pays. Lui est prieur et hôtelier. On reçoit beaucoup de monde aussi pour des retraites. Oui, retraites surtout, mais aussi des temps de retraite personnelle. Beaucoup d'équipes Notre-Dame, beaucoup de scouts, beaucoup de préparations de mariage aussi, beaucoup. Ça, c'est le frère Dominique Marie qui... Alors, Père Paul Emmanuel fait l'accueil. Frère Dominique Marie lui fait plutôt la conférence. Mais il va... Le frère Renaud, donc, a pris la pastorale de la vallée et maintenant, il commence aussi avec Oloron. Avec lui, le frère Pierre-Adrien, qui va aussi sur Oloron avec l'aumônerie des jeunes et de Saint-Joseph, et va l'aider aussi. Et le frère Laurent, qui est cuisinier, mais nous avons aussi une cuisinière salariée, ils font tous les deux. Mais en plus, il est donc curé aussi de ces villages. Et moi, donc, j'avais été nommé frère aîné.
Ah, c'est joli.
Il avait quand même mis pour accompagner, entraîner, transmettre et conseiller. et dépanner. Et surtout prier. Je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire. Ça, c'est un petit miracle. Je me suis tellement... Ah oui, j'ai quand même oublié l'essentiel. L'essentiel, j'ai oublié. Heureusement que l'Esprit-Saint est là. Mais je vais le résumer, mais je continuerai la prochaine fois. La découverte, quand même, de l'ordre prémontré. Là, j'en ai dit, la vie pratique. Mais comment... alors, je vous ai dit comment je raconte l'abbaye de Mondé. Mais l'abbaye de Mondé n'existerait pas s'il n'y avait pas Saint-Norbert. Alors, Saint-Norbert, alors là, il prendra presque autant de temps que moi. Je commence aujourd'hui, je finirai la prochaine fois. Saint-Norbert est un cas aussi atypique que moi. Toute proportion gardée et toute sainteté non comparable. Norbert faisait partie... Alors, il est né en 1080, il a fondé l'ordre en 1120 et 1121, et il est mort en 1134. Il est de cette... À cette époque-là, les frontières ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Il était du Saint-Empire tout en étant dans la Belgique d'aujourd'hui. Le château de Genève, son père était le comte de Genève, et qui était responsable de tout un district, avec l'empereur donc de Cologne. Et comme il était de famille très 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 noble, l'aîné ayant repris le, comme ça se faisait dans ce monde-là chez nous, on le faisait un peu pareil, mais avec d'autres niveaux. L'aîné restait à la maison, là, l'aîné devenait comte. Le second partait à l'armée, et le troisième avait droit à un bénéfice ecclésiastique. Il ne s'agissait pas d'une vocation. Là, c'était un héritage. C'était même pas un projet, un héritage. Et à une stalle du cœur des chanoines, puisqu'il vous a expliqué ça, le père Michel, à une stalle correspondait un bénéfice. La dîme d'une abbaye ou d'un château, ou d'un bénéfice. Ce qui fait qu'il était là sans aucune vocation. Et il a fait une... Il avait déjà... 30 et quelques années, il a fait une rencontre avec Jésus à la manière de Saint Paul, sur le cheval aussi, et détrôné, renversé de son cheval par l'orage aussi. Et là, cette conversion est d'une actualité dont je ne mesurais pas jusqu'à ces jours-ci, une actualité incroyable avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'il a fait une découverte avec Jésus qui lui a fait voir la religion chrétienne tout autrement. Et dans sa stalle de chanoine, il n'a pas pu continuer à vivre comme les autres qui étaient comme lui. Il a été appelé à une véritable vie de prière. Il ne pouvait pas continuer comme ça. Et du coup, il a demandé à être ordonné, diacre et prêtre. Et son premier sermon, il vient d'avoir donc l'ordination, il a fait un sermon pour exhorter ses frères à la conversion. Le lendemain, encore lui, il avait toute la semaine, mais qu'il n'a pas pu continuer, le second jour, à peine avait-il commencé son appel, tous les chanoines comme ça, qui exprimaient leur énervement. Et la troisième fois, ils ont poussé un peu plus loin, ils ont payé un SDF pour lui cracher dessus. Lui cracher dessus. Et alors là, il a compris qu'il fallait qu'il parte. Et il a dit, Jésus, montre-moi. Il est parti. Le pape Pascal, je crois, était dans le chemin d'Arles, il y a une... à Saint-Gilles, Saint-Gilles-du-Gard. Il a été à ce monastère où il demande au pape une mission... justement, pour prêcher l'évangile en itinérant. Il a fait comme ça, et là, il tombe, en arrivant à Cambrai, il découvre dans l'évêque de Cambrai un ancien compagnon de quand il était dans ce monde de mondanité ecclésiastique. Et l'évêque dit à le second qui était avec lui, il s'appelait Hugues, cet homme que tu vois qui était habillé tout simple, prédicateur, il est de si noble naissance qu'il a refusé mon évêché. Il a refusé mon évêché. Et il l'a refusé parce qu'il ne voulait pas être, et donc on lui avait proposé, mais parce qu'il avait cet idéal, il n'a pas voulu être évêque. Alors là, il a été tout à fait, après à l'époque, il ne voulait pas être évêque non plus. Mais il a été vraiment très très touché de voir que, venant d'où il venait, et qu'il avait connu sans aucune religion vraie, quoi. Et c'est là qu'il a été amené à fonder, avec l'évêque de Laon, Barthélemy de Jour, un grand ami à lui, qui lui a proposé plusieurs lieux, et en particulier il y avait une chapelle de Saint-Jean-Baptiste, et le lieu s'appelait Prémontré, d'où le nom de l'ordre, le lieu Prémontré. En Bernay, vous avez des maisons qui s'appellent Mirande, vous devez en connaître, les gens qui s'appellent Mirande, ça veut dire justement le lieu qu'on voit. Et là, Prémontré, ou à guerre, le lieu. Et alors, là, il a de suite, il avait ce jeune avec lui, et il a demandé au Seigneur vraiment de ce qu'il voulait de lui, et ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient, je crois, une petite dizaine au départ, c'est là qu'ils ont fait leur commencement. Le jour de Noël, première localisation, donc après montrer le jour de Noël 1120 et premier engagement 1121. Alors, là j'ai quand même dit pas mal, le reste on verra la prochaine fois, mais je vais terminer avec quand même l'actualité de l'ordre aujourd'hui, mais avant, l'actualité qu'il y a eu ici. En France, il y avait entre 88 et 92 abbayes prémontrées. C'est énorme. Énorme. Et elles ont disparu à la Révolution. La seule qui est rentrée, qui est revenue, c'est Mondé. Parce que le curé a été voir les abbayes belges avaient pu se reconstituer avant les Français, parce qu'il n'y avait pas ce côté du concordat qui empêchait les religieux d'être curés. Bon. Alors, donc, ils sont venus à Mondé grâce au curé, à Grimbergen. L'abbé de Grimbergen, quand il venait à Cousse, il me disait « Je suis père des frères de Mondé et donc grand-père d'Acousse. » Et alors, là, il y avait, comme actualité locale, une quinzaine de lieux prémontrés dans le diocèse de Bayonne et Oloron. L'Escar n'en avait pas. L'Escar avait plus de monastères. Il y avait la Reule, il y avait trois ou quatre lieux. Tandis qu'à Oloron, il y avait Sarance et Pagole. Et il y avait aussi les chanoines donc à Ordiart de Roncevaux. Et à Vérérens peut-être aussi.
En quelle année c'était ça? En quelle année?
Ah, jusqu'à la Révolution française. C'était à partir du début. Alors, Sarance a été fondée en 1314. Et alors, mais votre question est très intéressante parce que comment elles ont été fondées? Parce qu'il y avait cinq abbayes. Trois dans les Landes, l'une à Duorbachin, près d'Erre-sur-Azur, où il reste quelques vestiges. Une autre à Gosse, à côté de Dax. Et une autre, quand on va en autoroute sur Bayonne, il y a toujours écrit l'abbaye d'Artus, à droite, pour visiter. Vous avez dû voir ça, l'abbaye d'Artus. Et donc, ces abbayes avaient toutes des prieurés chez nous. Nous venions de celui de près de Erre-sur-Azur, de Caseres. Et l'abbaye de Laonce, près de Bayonne, avait aussi des prieurés, et l'abbaye de Urdax, tout près de Dancharia, on peut y aller, Dancharia, à Inoa. Bon, et bien là, il y avait aussi une abbaye. Alors, ça donnait des prieurés à Saint-Jean-le-Vieux, avec la Madeleine, à Orsanis, près du Saris, à Lantabat, à Andai, et un ermitage à Saint-Palais, de la paroisse de Ullarmix. Alors, en tout cas, pour vous dire un peu la vitalité qu'il y avait.
C'était un ordre très développé à l'époque.
Très, très, très développé, puisque, quand je dis ici, 90 abbayes, donc, dans le monde, ça voulait dire peu près de 4 fois plus, quoi. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup baissé, on est remonté un peu, mais l'espoir est ailleurs qu'ici. En France, il y a toujours mondé. Et alors, ailleurs, les abbayes belges, qui ont été longtemps presque les seules, ont fondé un peu partout. Elles sont connues en Belgique d'une autre manière que par l'ordre prémontré, l'abbaye de Lef, l'abbaye de Grimbergen. Je m'arrête là, il y en a pas d'autres. Et alors, pour finir, il y a aussi, aujourd'hui, il y a des prémontrés. Alors, les grandes abbayes aujourd'hui, en Belgique, il y en a encore 5, mais elles n'ont pas beaucoup de jeunes. Tandis que où il y a 5 abbayes avec beaucoup de jeunes, c'est aux États-Unis. Ils ont beaucoup, beaucoup de rentrées, et on pense que l'abbaye où il y a le plus de frères aujourd'hui, c'est dans une abbaye en Californie. Et après, en Inde aussi pas mal, notre ancien abbé avait été nommé maître des novices à Kinshasa.
Vous venez d'écouter le frère Pierre Moulia, prémontré à Sarens, dans le cadre de l'école de prière avec Saint-Augustin, proposée par la formation permanente du Béarn. Conférence enregistrée le 21 avril 2026 à Pau. Pour terminer, frère Pierre Moulia nous a proposé la lecture d'un psaume.
Sur le psaume 149, le chant nouveau. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Sa louange et dans l'assemblée des fidèles. Nous sommes invités à chanter au Seigneur un chant nouveau. L'homme nouveau connaît ce chant nouveau. Le chant est affaire de joie. Et si nous y réfléchissons plus attentivement, il est affaire d'amour. Donc, celui qui s'est aimé la vie nouvelle sait chanter le chant nouveau. Qu'est-ce que la vie nouvelle ? Nous y sommes invités à cause du chant nouveau, car tout appartient au même royaume. L'homme nouveau, le chant nouveau, le testament nouveau. Donc l'homme nouveau chantera le chant nouveau et appartiendra au testament nouveau. Chacun aime, mais on doit chercher quel est l'objet de cet amour. Par conséquent, on ne nous demande pas de renoncer à l'amour, mais de choisir ce que nous devons aimer. Mais que pourrons-nous choisir si d'abord nous ne sommes choisis ? Écoutez l'apôtre Jean. Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Cherche comment l'homme peut aimer Dieu. Et tu ne trouveras absolument rien d'autre que ceci. C'est Dieu le premier qui l'a aimé. Celui que nous avons aimé s'est donné lui-même. Il s'est donné pour que nous ayons de quoi aimer. Qu'a-t-il donné pour que nous ayons de quoi aimer ? Sachez-le plus clairement en écoutant l'apôtre Paul qui dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. D'où cela vient-il ? De nous ? De qui donc ? Par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Puisque nous avons une telle garantie, aimons Dieu de par Dieu. Écoutez cette parole plus explicite de saint Jean. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Il ne suffit pas de dire « l'amour vient de Dieu », mais qui d'entre nous oserait dire « comme saint Jean, Dieu est amour ». Celui qui a dit cela savait ce qu'il avait en lui. En un mot, Dieu s'offre à nous. Il nous crie « Aimez-moi et vous mourrez en vous, car vous ne pouvez même pas m'aimer si vous ne m'avez pas en vous. Ô mes frères, ô mes fils, enfants de l'Église catholique, plantation sainte et céleste, vous qui êtes régénérés dans le Christ et qui avez reçu la naissance d'en haut, écoutez-moi, ou plutôt, écoutez par ma voix. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Eh bien, dis-tu, je chante, tu chantes, oui, tu chantes, je l'entends, mais il ne faut pas que ta vie porte témoignage contre tes paroles. Chantez avec la voix, chantez avec le cœur, chantez avec la bouche, chantez par toute votre vie. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Vous cherchez comment chanter celui que vous aimez. Car sans aucun doute, tu veux chanter celui que tu aimes. Tu cherches quelle louange lui chanter. Vous avez entendu chanter au Seigneur un chant nouveau. Vous cherchez où sont ses louanges. Sa louange est dans l'assemblée des fidèles, la louange de celui que l'on veut chanter. C'est le chanteur lui-même. Vous voulez dire les louanges de Dieu. Soyez ce que vous dites. Vous êtes sa louange si vous vivez selon le bien.